4. La demi-douzaine d'infirmières qui s'étaient occupées de moi avaient été libérées pour accomplir d'autres tâches. Le travail ne manqua pas au cours des semaines qui suivirent la chute de Flight Killer. Mais Dora était restée. Elle nous apporta, à Léa et à moi, un grand pichet de thé d'Empis. « Je bois énormément », me confia Léa. « Parler ne me fait plus mal, enfin presque plus. Mais j'ai toujours la gorge sèche. Et ma bouche, tu peux le voir par toi-même. » Sa bouche, si elle n'était plus scellée, restait très abîmée. Et elle le resterait. Ses lèvres étaient deux plaies en cours de cicatrisation, bordées de croûtes rouges foncées. L'horrible lésion qui lui servait à s'alimenter avait presque entièrement disparu, mais sa bouche ne retrouverait jamais une mobilité complète. Pas plus que Woody ne retrouverait la vue, ou Claudia une ouïe parfaite. Je repensais à Stooks disant « Je ne serai plus jamais beau comme avant. » La reine Léa des Galiens ne serait plus jamais belle comme avant, elle non plus. Mais peu importait, car elle était magnifique. « Je ne voulais pas que tu me voies ainsi, » dit-elle. « Quand je suis avec des gens, du matin au soir, j'ai l'impression. Je dois prendre sur moi pour ne pas cacher mon visage. Quand je me regarde dans un miroir, » Elle leva la main. Je la saisis avant qu'elle puisse la plaquer sur sa bouche et la posai fermement sur ses genoux. « Je serais heureux de l'embrasser, si ce n'était pas si douloureux, » dis-je. Elle sourit. Un sourire de traviole, mais charmant. Peut-être parce qu'il était de traviole, justement. « Tu es un peu jeune pour les baisers d'amour. »« Je vous aime quand même, » pensais-je. « Quel âge avez-vous ? » Question impertinente adressée à une reine, peut-être, mais j'avais besoin de savoir à quel genre d'amour je devais me résoudre. Deux fois le tien, peut-être plus. Je pensais alors à M. Bodditch. Vous n'êtes pas monté sur le cadran solaire, si ? Vous n'avez pas 100 ans ou un truc comme ça ? Elle parvint à paraître amusée et horrifiée en même temps. Non, jamais. Personne ne monte sur le cadran solaire, c'est trop dangereux. Lorsque les jeux et les compétitions étaient organisés sur le terrain des monarques, ce jour reviendra, mais avant cela, il faut effectuer d'importants travaux. Le cadran solaire était immobilisé et gardé par-dessus le marché, de crainte que quelqu'un parmi les milliers de visiteurs qui se déplaçaient en ce temps-là succombe à la tentation. Ce cadran est très ancien. Eldan m'a raconté qu'il datait d'avant la construction de l'Ilimar, avant même que quelqu'un en ait l'idée. Ces paroles me mettaient mal à l'aise. Je me baissais pour caresser ma chienne roulée en boule entre mes pieds. Radar est monté dessus, avouai-je. C'est la raison principale pour laquelle je suis venu ici. Elle était mourante. Claudia vous l'a certainement dit.
Oui,
confirma Léa. Et elle se baissa elle aussi pour caresser Radar, qui leva vers elle un regard endormi.
« Mais ta chienne est un animal, innocente des mauvais penchants qui habitent le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes. Ces penchants qui ont détruit mon frère. Je suppose qu'ils existent dans ton monde également. »
Je ne pouvais pas dire le contraire.
Aucun membre de la royauté ne montera jamais sur ce cadran, pas même une fois, Charlie. Il change l'esprit et le cœur. Et ce n'est pas tout.
Mon ami, M. Bodditch, est monté dessus. Et ce n'était pas quelqu'un de mauvais, c'était même un homme bien. C'était vrai. Mais rétrospectivement, je m'apercevais que ce n'était pas totalement vrai. Franchir l'obstacle de sa colère et de son tempérament solitaire n'avait pas été facile, presque impossible. J'aurais renoncé si je ne l'avais pas promis à Dieu. Dieu, tel que je le conçois, disaient les membres du groupe des AA de mon père. Et je n'aurais jamais fait sa connaissance s'il ne s'était pas cassé la jambe en tombant. Il n'avait pas de femme, pas d'enfant, pas d'amis. C'était un solitaire et un entasseur compulsif. Un écureuil, un type qui gardait un seau rempli de pépites d'or dans un coffre-fort et aimait les vieilleries, meubles, magazines, téléviseurs et Studebaker vintage à l'abri. Il était, selon ses propres termes, un lâche qui avait apporté des cadeaux au lieu de prendre position. Et si on voulait être cruel, ce n'était pas mon intention, mais supposons. Il ressemblait un peu à Christopher Paulet, c'est-à-dire à Rumpelstiltskin. Voilà une comparaison que je n'avais pas envie de faire, sans pouvoir m'en empêcher. Si je n'étais pas intervenu, si je n'étais pas tombé amoureux de sa chienne, Monsieur Bodditch serait mort sans que personne le sache, isolé et oublié, dans sa maison au sommet de la colline. Et le passage entre les deux mondes n'étant plus protégé, il aurait sans doute été découvert. Y avait-il songé ? Léa me dévisageait en faisant tourner son seau autour de son doigt, avec son petit sourire de traviole. Était-ce un homme bon par nature ? Ou bien l'as-tu rendu bon, prince Charlie ?
Ne m'appelez pas comme ça. Je serai son prince, ou je n'en serai pas un. D'ailleurs, ce n'était pas un choix de ma part. Mes cheveux recommençaient à s'assombrir et mes yeux retrouvaient peu à peu leur couleur d'origine. Léa porta sa main à sa bouche, mais s'obligea à la reposer sur ses genoux.
Alors, Charlie, bon par nature ? Ou bien étais-tu sa miséricorde, envoyée par les dieux d'en haut ?
Je ne savais pas quoi répondre. Durant la majeure partie de mon séjour à Impis, je m'étais senti plus mûr, parfois plus fort, mais maintenant, je me sentais de nouveau faible et hésitant. Le fait de voir M. Bodditch sans le filtre adoucissant de la mémoire était un choc. Je me souvenais de l'odeur qui régnait dans la maison du 1 Sycamore Street avant que je l'aère, une odeur aigre et poussiéreuse, de renfermé. Elle me demanda, non sans inquiétude,
« Tu n'es pas monté dessus, hein ?»«
Non, j'ai juste récupéré Radar et elle a sauté en marche, mais j'ai senti son pouvoir. »«
Je peux vous poser une question ?»«
Bien sûr. » »«
La plateforme en or. On est monté pour redescendre ensuite, par l'escalier en colimaçon. »
Elle sourit autant qu'elle le pouvait.
« Exact. C'était risqué, mais on a réussi. »
Cet escalier entre les murs, il descend jusqu'à cette salle souterraine.
Oui, Eldon connaissait les deux passages. Celui-ci et celui qui part de la petite pièce remplie de vêtements. Il y en a peut-être d'autres, mais dans ce cas, il ne me les a jamais montrés.
Alors pourquoi on a pris le chemin le plus long ? Au risque de basculer dans le vide, aurais-je pu ajouter ?
Parce qu'on racontait que Flight Killer ne pouvait pas gravir plus de quelques marches. Par conséquent, l'escalier entre les murs était plus sûr. Et je ne voulais pas courir le risque de tomber sur sa suite. Mais, en définitive, on n'a pas eu le choix.
Si on ne s'était pas arrêté dans les appartements du grand intendant, Ayota serait peut-être toujours en vie.
On a fait ce qu'on devait faire, Charlie. Tu avais raison. J'avais tort. Dans plein de domaines. Je veux que tu le saches. Et je veux que tu saches autre chose. Je suis laide maintenant. Du nez jusqu'...
Non, vous...
Elle leva la main.
Chut. Tu me vois avec les yeux d'un ami. Je t'en suis reconnaissante. Et je le serai toujours. D'autres verront les choses autrement. Pourtant, en tant que reine, je devrais me marier avant d'être trop âgée. Laide ou pas, nombreux seront ceux qui voudront m'enlacer. Dans le noir, tout du moins. Et puis,
il n'est pas nécessaire de s'embrasser pour produire un héritier. Mais les hommes qui montent sur le cadran solaire, même pour un tour, deviennent stériles. Et les femmes aussi. Si le cadran solaire donne la vie, il la reprend également. Ce qui expliquait l'absence de petit Bodich, supposais-je.
Petra,
dit-elle avec un ricanement amer.
Son rêve était de régner sur les ruines que mon frère avait créées. Mais elle était stérile.
Elle soupira, vida son verre d'un trait et s'en servit un autre.
Elle était folle et cruelle. Si elle avait réussi à mettre la main sur Empis et Lilimar, elle aurait passé son temps sur le cadran solaire. Tu as vu quel genre de femme c'était ?
En effet, et je l'avais senti. Je le sentais encore, d'ailleurs. Même si son poison était sorti de ma plaie et si la douleur avait été remplacée par d'intenses démangeaisons dont Dora jurait qu'elle finirait par disparaître avec le temps.
Eldon est l'autre raison pour laquelle j'ai tant tardé à venir te voir, Charlie. Même si tu n'as jamais quitté mes pensées, et ne les quitteras jamais, je suppose.
Je faillis lui demander si elle était certaine que j'étais trop jeune pour elle, mais je m'abstins. Tout d'abord, je n'étais pas destiné à devenir le consort d'une reine, et encore moins roi. Ensuite, j'avais un père qui serait heureux d'apprendre que j'étais vivant. Enfin, il y avait une troisième raison qui me poussait à rentrer. La menace que Gog Magog faisait peser sur notre monde était peut-être écartée, pour le moment en tout cas, mais il restait la menace que notre monde représentait pour Empis. Si toutefois notre monde découvrait l'existence de ce royaume et de ses richesses incommensurables auxquelles on pouvait accéder depuis un cabanon de jardin dans l'Illinois.
Tu étais présent quand j'ai tué mon frère. Je l'aimais tel qu'il était autrefois. J'ai essayé de le voir tel qu'il était alors, mais tu m'as obligé à voir le monstre qu'il était devenu. Et maintenant, chaque fois que je te regarde, je pense à lui, à ce que j'ai fait. Je pense à ce qu'il m'en a coûté. Tu comprends ?
Ce n'était pas une mauvaise action, Léa. Au contraire, vous avez sauvé le royaume, mais pas dans le but de devenir reine. Vous l'avez sauvé car il devait l'être.
C'est exact. Et la fausse modestie n'a pas de raison d'être entre toi et moi qui avons vécu tant de choses. Mais tu ne comprends pas.
Je
savais. Vois-tu ? Je savais que Flight Killer était mon frère. Quand Claudia me l'a dit, il y a des années, je l'ai traitée de menteuse. Et tant que je serai près de toi, je me répéterai que j'aurais dû agir plus tôt. Ce qui m'a retenu, c'est le besoin égoïste de chérir son souvenir. Pendant que le royaume souffrait, je nourrissais mes oies, je m'occupais de mon jardin et je m'apitoyais sur mon sort. Et toi, je suis navré, Charlie, mais quand je te vois, je vois ma honte. Tu me rappelles que j'ai choisi d'être une fermière muette, alors que ma terre et mon peuple mouraient à petit feu autour de moi. Et je le savais depuis le début.
Elle pleurait. J'approchai ma main. Elle secoua la tête et me tourna le dos comme si elle ne pouvait pas supporter que je voie ses larmes. « Juste avant que vous entriez dans cette chambre, dis-je, j'étais en train de penser à un seul truc que j'ai fait. Un truc honteux. Je peux vous en parler ?»«
Si tu veux. »
Elle refusait toujours de me regarder. J'avais un ami, Bertie Bird. Un bon ami, mais pas un bon ami, si vous voyez ce que je veux dire. Après la mort de ma mère, j'en ai bavé. Mon père aussi, mais je ne pensais pas trop à ce qu'il endurait, car j'étais encore un gamin. Je savais juste que j'avais besoin de lui, et qu'il n'était pas là. Je suis sûr que vous pouvez comprendre ça. Tu le sais bien,
confirma Léa et elle but encore du thé. Elle avait presque vidé le pichet et c'était un grand pichet.
Ah, on a fait des trucs moches, Bertie et moi. Mais le seul coup auquel je pensais... On avait l'habitude de traverser un parc pour rentrer chez nous après l'école. Cavano Park. Un jour, on a vu un handicapé qui filait à bouffer aux pigeons. Il était en short et il portait des appareils orthopédiques aux jambes. Bertie et moi, on a trouvé qu'il avait l'air débile. « Hé, Roboman !» lui a lancé Bertie.
« Je ne comprends pas ce... »
« Peu importe. C'était un handicapé assis sur un banc au soleil. Bertie et moi, on s'est regardés. Et Bertie a dit « Viens, on va lui faucher ses béquilles. »
Les mauvais penchants dont vous parliez, sans doute. Le mal. On a foncé vers lui et on a piqué les béquilles. Il a crié pour qu'on les lui rapporte, mais on ne l'a pas fait. On a couru à l'autre bout du parc et on a jeté les béquilles dans la mare aux canards. Chacun la sienne, en riant. On a balancé les béquilles de cet handicapé. Et on n'a jamais su comment il était rentré chez lui. On était morts de rire en les entendant tomber dans l'eau. Je versais le restant de thé dans mon verre. Il y avait juste de quoi en remplir la moitié. Et c'était très bien car ma main tremblait et j'avais les yeux mouillés. Je n'avais pas pleuré depuis ce jour où j'avais pensé à mon père dans le cachot de Deep Maline.
« Pourquoi tu me racontes ça, Charlie ?»
Je ne connaissais pas la réponse à sa question en commençant à lui parler de tout ça. J'avais toujours cru que jamais je ne raconterais cette histoire à personne. Mais maintenant, je savais pourquoi je la lui avais racontée.
« C'est comme si j'avais volé vos béquilles. Tout ce que je peux dire pour ma défense, c'est qu'il le fallait. »
« Oh, Charlie !»
Elle caressa ma joue.
« Tu ne serais pas heureux ici, de toute façon. Tu n'es pas de ce monde. Tu appartiens à l'autre monde. Et si tu n'y retournes pas très vite, tu vas t'apercevoir que tu ne peux vivre dans aucun des deux. »
Elle se leva.
« Je dois y aller. Il y a tellement de choses à faire. »
Je l'accompagnais jusqu'à la porte. En quatrième, on avait étudié les haïkus en cours d'anglais, et l'un d'eux me revint en mémoire à cet instant. Très délicatement, j'appuyai mon index sur sa bouche détruite.
Quand on aime, les cicatrices sont la beauté des fossettes. Je vous aime, Léa.
Elle posa sa main sur mes lèvres comme je l'avais fait sur les siennes.
Moi aussi. Je t'aime.
Sur ce, elle se faufila par la porte et disparut.